Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast des Bulles de l'Histoire. Il est des événements, il est des dates dans notre histoire qui ont suffisamment marqué leurs contemporains et qui nous ont même suffisamment marqué nous-mêmes pour qu'elles s'inscrivent largement encore dans la mémoire collective comme autant de rappels, autant de leçons qu'il est nécessaire de ne pas oublier. Eh bien, c'est d'une de ces leçons, d'un de ces rappels, dont il va être question aujourd'hui. Le podcast du jour est un podcast éphéméride. Nous allons nous intéresser à un fait divers qui a eu lieu le 4 mai 1897. Comprendre donc à la toute fin du très flamboyant et éclatant 19e siècle à la française. Nous allons nous plonger au milieu des flammes de l'incendie du bazar de la Charité. Nous en reprendrons le fil conducteur, nous nous interrogerons sur le nombre de victimes et sur les différentes classes qui vont intervenir au milieu de cet événement et nous en tirerons des leçons jusqu'à nos propres salles de cinéma pour comprendre pourquoi aujourd'hui le bazar de la Charité sert de point de référence sur tout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je vous propose donc de nous retrouver le 4 mai 1897 devant la rue Jean Goujon à l'entrée du bazar. Bonne écoute. Avant de nous intéresser à la chronologie des événements dramatiques de l'incendie du bazar de la Charité, je vous propose d'en revenir à sa source, parce que le bazar de la Charité n'est pas né ce 4 avril 1897, pas plus qu'il n'a duré une seule journée, comme on pourrait à tort le croire, tant cette date a été ancrée en nos mémoires. Elle nous a fait oublier que le bazar de la Charité est, à l'instar de ce que l'on appelait à l'époque la saison, un événement mondain qui durait donc plusieurs semaines. Le bazar de la Charité a été créé en 1885. Un de ses organisateurs, et qui fait partie du reste du comité d'organisation du bazar, c'est un haut responsable politique de l'époque, le baron de Macau. Il y a également le baron Oppenheim parmi les membres du comité d'organisation qui sont tous de confession catholique, tant le bazar de la Charité est sous le patronage de l'Église catholique qui glorifie comme une des valeurs les plus sacrées la charité depuis ses fondements. Et cette charité, elle est présente dans la mémoire collective. Que l'on soit un simple ouvrier ou un haut aristocrate, on a grandi dans cette valeur-là. Au Moyen-Âge, qu'on soit riche ou pauvre, on avait à la ceinture une aumônière dans laquelle on glissait quelques piécettes qui étaient réservées justement aux pauvres. Là, cette charité est portée par les plus hauts, les plus grands, mais surtout les plus riches personnages de cette société française éclatante et flamboyante de la fin du 19e siècle. Le bazar de la Charité, donc, en ce mois de mai 1897, s'est enfin fixé sur un terrain vague qui se trouve dans la rue Jean Goujon. Il avait bien voyagé, on a trouvé un terrain sur lequel le fixer, un terrain qui n'est pas vide, un terrain qui compte un baraquement de 80 mètres de long sur 20 mètres de large, un vieux baraquement en bois de sapin qui avait servi pour des représentations théâtrales. L'achat est fait par le comité d'organisation qui, du reste, par les mains d'un autre de ses organisateurs, Monsieur Henry Blunt, va pouvoir se fournir aussi à peu de frais le décor de ce bazar. Parce que vous imaginez bien, on ne va pas faire déambuler toutes ces élégantes, toutes ces mondaines sans un beau décor. Et ce beau décor, eh bien, ce sera le décor d'une rue de Paris au Moyen-Âge, tout en carton-pâte, un décor racheté à peu de frais du reste, puisqu'il provenait d'une pièce de théâtre jouée plusieurs semaines auparavant. Et pour, bien évidemment, parfaire ce décor, on a rajouté, pour en faire une sorte de verrière à peu de frais, un vellum de toile goudronnée qui en donne donc l'impression presque d'un beau ciel bleu. Et là, vous vous dites « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu !» Mais si le feu prenait là-dedans, au milieu des oriflammes de crépons et de ces comptoirs qui portent des noms très pittoresques, à la truie qui file, à la tour de Nesle. On a voulu reproduire avec moult détails, et du reste, les photos existent et je vous engage à aller les voir avec une certaine minutie, cette fameuse rue de Paris, cette rue médiévale. Dommage qu'on n'eût pas été plus minutieux sur la question de la sécurité. Cette question va tant manquer, et c'est ce manquement à ces précautions, à cette sécurité qui donnera à cette date du 4 mai 1897 une aura fatale, une aura destructrice dont la haute aristocratie française ne se remettra quasi jamais. Je vous propose maintenant d'en découvrir la chronologie et de nous rendre donc à l'entrée du bazar de la Charité, de nous retrouver devant une de ces grandes portes à tambour au milieu de toutes ces élégantes au moment où le nonce apostolique s'apprête à bénir le bazar. Ça y est, le bazar de la Charité vient d'être inauguré par le nonce apostolique en lieu et place de l'archevêque de Paris retenu à Rome. C'était en effet lui, l'archevêque de Paris, qui procédait à l'inauguration du bazar de toutes les charités les années précédentes depuis sa création. Il est un peu plus de 16 heures et la foule est plus que compacte. Au plus fort de toute l'affluence que l'on connaîtra dans le bazar de la Charité, une estimation a pu être faite que près de 1200 personnes se sont réparties sur les quelques 80 mètres de long et 20 mètres de large que compte ce baraquement, que compte aussi ce décor fait de carton-pâte et donc de ce vellum de toile goudronnée racheté à peu de frais qui avait servi pour une pièce de théâtre, et ce décor reprend le visuel d'une rue parisienne au Moyen-Âge. Et ce choix du Moyen-Âge n'est pas fait par hasard. Ce 19e siècle et surtout cette fin de 19e siècle s'inscrit dans ce que nous allons appeler le médiévalisme, ce Moyen-Âge rêvé, fantasmé, qui va s'inscrire autant en littérature qu'en architecture, avec pour exemple notamment la rénovation de Notre-Dame de Paris entreprise par Monsieur Viollet-le-Duc, mais un autre exemple architectural, par exemple le château du Haut-Königsbourg, que l'empereur Guillaume fera, lui, presque entièrement refaire sous les codes de ce médiévalisme, de ce Moyen-Âge fantasmé. Et dans cette rue, eh bien, on a installé de part et d'autre des comptoirs avec des noms très pittoresques, à la tour de Ney, à la truie qui file, et chaque comptoir, eh bien, est dédié à une œuvre de charité sous le patronage d'une dame de la très haute aristocratie qui va y vendre des objets qui ont été rachetés à peu de frais par le comité d'organisation du bazar et qui vont être cédés là sous le coup de quelques louis. Le bazar de la charité est donc une attraction mondaine, l'occasion pour le petit peuple, la bourgeoisie notamment, d'accéder à cette très haute aristocratie qu'elle ne côtoie pas d'ordinaire, à cette très grande richesse qui vit dans un sérail, qui ne côtoie que ses propres semblables et qui du reste s'affiche de façon très opulente lors de réceptions, de bals et autres opéras. C'est le moyen donc de rétablir l'équilibre et que plusieurs classes se côtoient sur plusieurs semaines. Mais cette attraction mondaine va voir aussi s'afficher une autre attraction. Une attraction toute récente qui vient d'être créée presque un an plus tôt, le cinématographe. Et justement, eh bien, c'est ce cinématographe qui va être une des attractions du jour. Il est installé au fond du baraquement. On y accède à la salle de projection par un petit tourniquet et au projectionniste et à son assistant qui se plaignent du peu d'espace qu'ils ont mais aussi du peu de sécurité qu'il y a autour de la cabine de projection, on répond par un rideau qui va être placé entre la cabine du projectionniste et le reste du baraquement. Si le cinématographe est une des attractions phares de cette édition du 4 mai 1897, eh bien il n'est pas le seul. Il va devoir partager la vedette avec une personnalité, une très grande dame, une de ces élégantes. C'est la duchesse d'Alençon. Ce nom ne vous dira sans doute rien, mais Sophie Charlotte est la sœur de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, rien que ça. Et oui, elle est la sœur de la très célèbre Sissi. Et la duchesse d'Alençon, en plus d'être la sœur de l'impératrice d'Autriche, elle a aussi été fiancée, bien que ses fiançailles ne se soient pas concrétisées par un mariage, au roi Louis II de Bavière. Excusez du peu. Elle tient, elle, le stand des noviciats, qui est presque un des premiers stands que l'on a sur la droite lorsque l'on rentre dans le bazar. Et elle voit ce jour-là, en plus, son mari venir lui tenir compagnie quelque temps sur son stand. Elle est donc, avec le cinématographe, une des principales attractions. Et du reste, elle est à l'égal de l'impératrice d'Autriche, également très belle. Tout aurait pu bien se passer, tout était fait pour que chacun puisse profiter d'une après-midi agréable. Il y a un orchestre qui joue des valses, qui joue des quadrilles, qui joue tous ces airs que la haute aristocratie affectionne. Mais il y a aussi ce cinématographe qui offre les premières scénettes animées et notamment ces scénettes qui viennent des frères Lumière. On a l'entrée du train en gare de la Ciotat, la sortie justement de l'usine des frères Lumière, on a les scènes assez rigolotes du jardinier. Elles durent une vingtaine de minutes à chaque fois et croyez-moi, l'organisation et la mise en place des bobines ne se fait pas comme aujourd'hui. il faut du temps. Et c'est justement, c'est cette organisation qui va signer la fin de cette ambiance si joyeuse, si flamboyante. C'est ce que nous allons découvrir maintenant. Bélac et son assistant s'affairent autour du cinématographe. Ils sont en train de préparer la projection suivante. Celle-ci s'est achevée il y a quelques instants et chaque projection dure une vingtaine de minutes. Il faut autant de temps, si ce n'est davantage, à Bélac et à son assistant pour remettre l'appareil en bon fonctionnement. Seulement voilà, le local dans lequel se trouve le cinématographe, cette fameuse cabine du projectionniste, est très exiguë. On y circule avec difficulté et de plus, il y a très peu de lumière. Et tout cela, bien évidemment, autant Bélac que son assistant sont allés le porter à l'attention du comité d'organisation du Bazar de la Charité, comme ils sont aussi allés signaler la trop grande proximité à la fois de la salle de projection, mais également la cabine du projectionniste avec le reste du bazar. Il aurait fallu le faire en extérieur, il aurait fallu l'éloigner pour plus de sécurité. Mais ni le baron du Mako, ni le reste des organisateurs ne tiennent compte des avertissements de Bélac et de son assistant. Afin de faire taire leur plainte, ils leur fournissent un simple rideau qui sera mis entre la cabine du projectionniste et le reste du baraquement, faisant office de séparation de fortune. On ne manipule pas et on ne fait pas fonctionner le cinématographe comme l'on fait fonctionner aujourd'hui les appareils qui permettent aux projectionnistes de nous faire profiter des films dans nos salles de cinéma. Vous vous en doutez bien, on n'utilise pas les mêmes appareils ni les mêmes produits. Or, pour le bon fonctionnement du cinématographe, on utilise notamment de l'éther, et c'est cette bonbonne d'éther qui va sceller le destin du bazar de la charité, qui va sceller le destin de toute cette population. Ils étaient près de 1200 au plus fort de l'affluence que l'on a pu recenser au bazar. Mais pas une dame, pas un gentleman ne se doute à ce moment précis de ce qui est en train de se préparer. Ils sont trop occupés à conclure quelques affaires, à danser, à se restaurer. Ils n'imaginent pas que l'enfer de Dante va se matérialiser sous leurs yeux. Bélac demande à son assistant de lui donner de la lumière. Il n'a eu de cesse de se plaindre au baron de Mako que l'éclairage qu'il y avait dans la cabine du projectionniste était quasi inexistant, mais ses plaintes sont restées sans suite. Son assistant va donc gratter une allumette pour fournir à son maître ce qu'il lui demande, à savoir une flamme. Il a oublié, et il n'est pas le seul du reste, que la bonbonne d'éther n'est pas étanche. Et très vite, une vapeur d'éther va s'échapper de la bonbonne et venir enflammer cette allumette et propager au rideau, quasi dans les secondes qui suivent, une flamme qui va ronfler, qui va grimper et qui va, en quelques secondes, faire rougeoyer ce rideau de séparation et qui va faire réagir vite et fort Bélac et le projectionniste et son assistant de projection qui se dépêchent de prévenir le personnel du bazar. Il n'y a au départ que le personnel présent pour servir tous ces grands mondains qui est au courant de la situation. On s'emploie comme on peut déjà et dans un calme relatif à faire évacuer la salle de projection. On n'évoque pas un incendie, on parle d'un incident qui se serait produit dans la cabine du projectionniste qui empêcherait la projection suivante d'avoir lieu et on propose à la population présente de rejoindre la rue principale pour aller se restaurer ou aller faire d'autres bonnes affaires. Et l'évacuation se fait donc dans l'ordre. Mais très vite, il faut à peine une à deux minutes pour que le rideau entier qui sépare la cabine du projectionniste, donc du reste du baraquement, ne s'enflamme. Et très vite, on entend un grondement et on voit cette flamme qui monte et qui va venir frapper le vélome de toile goudronnée. Et là, une sorte d'explosion. Et la flamme va se répartir sur tout le vélome et va redescendre pour venir grignoter tout le décor de carton-pâte. Et là, c'est la stupeur. L'orchestre s'arrête. Et ce qui va se passer va rester dans les mémoires comme un des événements les plus monstrueux, les plus macabres, les plus inimaginables, mais surtout les plus lâches, tant les comportements qui vont se faire jour dans le baraquement feront honte à toute une société. Nous allons voir maintenant comment chacun va réagir. Comment vont réagir les gentlemen? Comment vont réagir les ouvriers? Comment vont réagir ces grandes dames? Comment vont réagir les organisateurs? La salle de projection du cinématographe vient d'être évacuée. Or, on n'y prête guère attention. Tout juste voit-on les membres du personnel essayer de s'affairer vers ce qui semble être la cabine du projectionniste. On les voit apporter ce qui semble être des seaux d'eau, mais le mot d'incendie ne franchit en aucun cas les barres de leurs lèvres. Si bien que ni les grandes dames patronesses, ni leurs maris, ni le reste de la population présente dans le bazar à ce moment-là ne pensent en aucune façon qu'un début d'incendie est en train de se faire, qu'un début d'incendie vient d'avoir lieu et qu'il ne peut et que personne pour l'instant n'arrive à le circoncire. Et pour cause, la flamme née du contact entre l'allumette grattée par l'assistant de Bellac et cette vapeur d'éther a bientôt largement consumé le rideau de séparation entre la cabine du projectionniste et le reste de cette rue moyenâgeuse. Elle est en train de gagner, on la voit, on l'entend au départ, on entend ce grondement qui là du coup fait se tourner toutes les têtes. Ce grondement si particulier du bois qui est en train de ronfler, de gonfler, et puis on la voit cette flamme qui va aller frapper bien vite le vélome de toile goudronnée et l'enflammer d'un seul coup. Oh, croyez-moi, si on se plaignait d'ores et déjà d'une chaleur que l'on jugeait étouffante, bien vite cette chaleur deviendra une véritable fournaise, cela deviendra l'enfer. L'enfer presque à l'égal de l'enfer de Dante. Et croyez-moi, quand on verra les descriptions qui en seront faites, bon nombre le diront, c'était l'enfer sur terre. Et au moment où, justement, le vélum tout entier s'embrase, le sauve-qui-peut général commence. Il faut partir. Il faut trouver un moyen de sortir du baraquement. Messieurs de Mako et les autres organisateurs du bazar n'étaient pas férus de sécurité, comme je vous l'ai dit. Et ils ont du reste, et cela, la population qui est en train de se précipiter vers la grande porte à tambour, la même porte qu'elle a franchie quelques 20-25 minutes auparavant, se précipite pour en sortir, n'a pas vu qu'il y avait d'autres portes sur les côtés qui auraient pu être des issues sur le reste du terrain vague. Mais ces portes, ce sont des portes qui ont été condamnées. Elles sont restées pour le décor, mais elles ne peuvent pas être ouvertes. Et pourtant, il y a une issue de l'autre côté qui aurait pu, elle, être ouverte. Et d'ailleurs, cette issue va permettre à bon nombre de victimes de s'échapper. Mais très vite, devant cette issue, on s'agglutine, cela bloque. Et si cela bloque encore plus devant cette grande porte à tambour. Parce que cette porte, on la pousse, mais elle met beaucoup de temps, elle met trop de temps à rejeter un flot de victimes qui vont s'entasser, qui vont tomber et qui vont la bloquer. Les pauvres gens vont se retrouver coincés à l'intérieur du bazar, pris comme dans une souricière. Et là, on voit le goudron en fusion commencer à goûter du toit et tomber. Mais il tombe où ? Il tombe sur les perruques des dames, il tombe sur leurs chapeaux, il tombe sur leurs vêtements. Car ces vêtements de ces grandes dames, entretenus à grands frais, elles sont lavées à l'alcool, elles sont lavées à l'essence. Autant vous dire que ces pauvres dames se transforment en torches humaines. Elles essaient tant bien que mal de se frayer un chemin. On se pousse, on se frappe, on se fait tomber. Il y a autant d'hommes, de femmes et d'enfants qui seront piétinés par ce mouvement de foule, par ce mouvement de panique. Et où sont-ils, Bellac et son assistant ? Où est-il, le baron de Mako ? Bellac et son assistant ne fuiront pas le bazar. Ils feront du reste plusieurs allers-retours pour essayer de sauver le plus qu'ils pourront. Le baron de Mako a, lui, sa barbe rougeoyante et essaiera, lui aussi, de sauver le plus de personnes qu'il pourra. Mais si l'attitude du baron de Mako rehausse un petit peu son prestige, si l'on peut dire, et fait oublier qu'il est presque en partie largement responsable de l'incendie, parce qu'il aurait pu l'éviter en prenant toutes les précautions, cela ne va pas être le cas des hommes. Parce que si le mouvement de foule est tel que des gens seront piétinés, des enfants, des femmes seront piétinés, c'est parce que les hommes seront les premiers à se précipiter hors du bazar et feront tout pour regagner la sortie. Les circonstances sont telles que l'instinct de survie leur fait littéralement perdre pied on peut dire que le cerveau de ces gentlemen, pourtant si bien élevé, est en train de se transformer, de régresser, de revenir presque au cerveau reptilien des premiers âges. Ils ne pensent ni à leurs femmes, ni à leurs filles, ni à leurs fils, ni à leur mère, possiblement présente. Ils ne pensent qu'à une chose, sortir, se frayer un chemin en dehors de cette fournaise, qui du reste les blesse aussi, parce que si les femmes sont en train de brûler vives, les hommes aussi sont touchés, bien évidemment, par les brûlures, par le rayonnement de chaleur qui est juste inimaginable. Le baraquement tout entier est en train de brûler. Il faudra moins d'un quart d'heure pour que le baraquement entier ne brûle et près de 45 minutes pour qu'il n'en restât plus rien. C'est dire de la violence même de l'incendie. Les hommes se frayent donc un chemin à coups de canne, à coups de pied. On assomme, on piétine, on se fait même passer pour certains pour des femmes. Et on se croit sauvé lorsqu'on est à l'extérieur, me direz-vous. Mais ceux qui sont hors du 13 rue Jean Goujon, sont-ils sauvés? Eh bien non. Parce que le rayonnement de l'incendie se propage aux bâtiments voisins. Et qui sont-ils, ces bâtiments voisins? Eh bien, pour la plupart, ce sont des hôtels particuliers, mais également des hôtels tout court. Il y a notamment l'hôtel du Palais, et le rayonnement est tel que bon nombre de ceux qui ont déjà tant peiné à quitter le bazar vont finir par mourir brûlés. Ou s'ils arrivent à s'en sortir, auront de terribles brûlures. Et on voit là des femmes qui hurlent, on les pense indemnes. Et pourtant elles ne le sont pas, elles brûlent en dedans, en dessous, parce que leurs jupons brûlent sous elles, tant le rayonnement est fort. Je vous l'ai dit, le cinématographe n'a pas été la seule attraction de cette édition 1897. Il y en avait une autre, et c'est la duchesse Sophie d'Alençon. Sophie d'Alençon est la sœur cadette de l'impératrice Élisabeth d'Autriche, que nous connaissons sous le sobriquet de Sissi. Elle tient le stand des noviciats, qui est un des premiers stands sur la droite. Les noviciats, ce sont ses sœurs dominicaines. Et elle a pu compter sur la présence de son mari, le duc d'Alençon, venu lui tenir compagnie quelque temps sur son stand. La duchesse d'Alençon est une des rares qui aura un comportement exemplaire. Elle ne cède pas à la panique ambiante. Au contraire, elle va faire en sorte que le petit personnel qui est là, présent avec elle, mais aussi elle va faire en sorte pour les sœurs dominicaines de les envoyer en sécurité à l'autre bout du baraquement, à l'opposé, à cette sortie qui va permettre à tant de victimes de pouvoir gagner l'extérieur. Mais elle ne part pas. Elle aurait pu partir. Et pendant bon nombre d'années, on s'est posé des questions sur cette fuite qu'elle a refusée. Pourquoi être restée? Sophie d'Alençon est une des sœurs d'Élisabeth d'Autriche, une des sœurs de Sissi. Et son comportement et celui d'Élisabeth peuvent être mises en lumière et souvent comparées. La mentalité des filles de Wittelsbach est une mentalité particulière, où la dépression ou la mélancolie, plutôt, a une part de choix. La duchesse d'Alençon sortait à peine d'un de ses nombreux séjours en sanatorium. Elle a été traitée et très maltraitée, notamment par Sigmund Freud. Elle a eu une attitude plus que contestable, beaucoup d'amants. Bref, son attitude en tant que femme mariée au duc d'Alençon a tant et tant défrayé la chronique. Elle était sans doute beaucoup trop en avance sur son temps, comme Sissi. Elle avait un caractère très volontaire et très libre, qui était à l'opposé de ce que l'on attendait d'une dame de son rang. Elle a donc sans doute, peut-être, choisi de mettre ses affaires en ordre après tout. Dater un trépas, dater une fin, dater une vie qu'elle supportait de moins en moins. C'est peut-être pour cela qu'elle n'a pas cherché à fuir, mais qu'elle a plutôt cherché à protéger les quelques sœurs qui sont transies d'horreur et qui tremblent et qui sont même pour certaines saisies et qui mourront de peur. On verra tant de dames saisies et terrifiées ne pouvoir bouger. On verra aussi une sœur en prière dont la robe de bure est déjà la proie des flammes. La duchesse d'Alençon fait part néanmoins pour rassurer son personnel, qu'elle partira la dernière, son intention de partir la dernière. Mais partira-t-elle vraiment la dernière? Ou acceptera-t-elle plutôt de régler son destin et de se mettre en règle avec Dieu par cet événement hors du commun? Toujours est-il qu'elle ne se sauvera pas. Toujours est-il que son mari, du reste, qui la cherche, le duc d'Alençon, qui sera accusé, lui aussi, de s'être frayé un chemin à coups de canne, d'avoir frappé, d'avoir battu des femmes, le duc d'Alençon cherche sa Sophie, il veut retrouver son épouse. Il la cherche, mais il ne la trouve pas, il est à l'opposé de l'endroit où elle est. Et lui finit par sortir et une dame, croyant sans doute bien faire, lui dit « Oh, mais la duchesse est sortie, votre Altesse !» Mais au final, après que le bazar de la charité eut fini de se consumer, au moment où tout ce qui peut être encore vivant semble être sorti, il se rend compte qu'il a été trompé, ou il ne reverra pas sa Sophie, ou plutôt il la reverra morte, et il ne pourra même pas l'identifier comme on identifiait à l'époque les belles morts, entre guillemets. Ce sera le dentiste de la duchesse d'Alençon qui identifiera le cadavre de la duchesse, tant celui est méconnaissable, puisqu'elle avait eu des bridges et que ces bridges étaient particuliers et que donc c'est ce qui permettra son identification. La cohue est-elle? Les hurlements se font entendre, on se croirait en plein enfer sur terre. Les hurlements sont tels que les cuisiniers, et notamment un des cuisiniers de l'hôtel du palais, qui voit depuis sa cuisine par un soupirail qui le relie lui sur le baraquement, il voit l'incendie et il entreprend de casser les barreaux. Et c'est ce jour de souffrance qui porte définitivement bien son nom, voit s'agripper bon nombre de dames qui veulent à tout prix passer par là. Et on entreprend donc de scier les barreaux. Seulement, une grande dame semble être en proie à une crise de folie et on va être obligé de lui briser les doigts pour permettre l'évacuation de dizaines de victimes. Et c'est d'ailleurs les cuisiniers, les plombiers, les cochers, les médecins qui vont rentrer dans le baraquement au péril de leur vie pour sortir plusieurs victimes. On verra un plombier sortir une vingtaine de victimes et retourner comme si de rien n'était à son atelier avant de constater qu'il a le visage grêlé lui-même de brûlures. Les pompiers interviennent. Ils interviennent au tout début. Seulement, les pompiers de l'époque n'ont pas du tout les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Ils n'ont pas de protection. Et ils essaient de sauver le plus de personnes qu'ils puissent. Ils arrosent du reste les bâtiments contigus au baraquement afin que l'incendie ne se propage pas. Mais très vite, ils voient qu'ils ne peuvent rien faire et qu'il faut donc laisser le baraquement s'éteindre. Mais que faire ? Que faire des victimes ? Que faire des quelques corps ? Où les envoyer ? Comment s'en occuper ? Comment identifier ? Comment réaliser ce qui vient de se passer ? C'est ce dont nous allons parler maintenant. Les pompiers ont fort à faire. Ils doivent à la fois s'occuper des victimes et s'occuper de protéger, de préserver les bâtiments qui jouxtent et qui sont tout à côté de ce qui était encore un quart d'heure plus tôt le bazar de la Charité. Ils les arrosent grandement pour faire diminuer le rayonnement si intense de cette chaleur. Parce que la fournaise que l'on ressentait à l'intérieur du bazar de la Charité, elle se ressent à l'extérieur. Les fenêtres des hôtels, autant hôtels particuliers que celles de l'hôtel du Palais, ont toutes éclaté, ne résistant pas à la chaleur. Si bien que les pauvres gens qui ont réussi à sortir du bazar de la Charité n'en sont pas moins tranquilles. Ils hurlent de douleur et finissent, pour ceux qui sont chanceux, par pouvoir s'en sortir, pour les moins chanceux, malheureusement, par mourir là, par terre, dans la rue. Les cadavres sont transportés au palais de l'industrie qui servira de morgue. Et très vite, on va voir les membres des familles s'affairer autour des cadavres pour essayer de les reconnaître. Mais comment reconnaître ? Comment reconnaître une femme d'un homme alors que l'incendie semble avoir gommé tout signe distinctif ? Jusqu'alors, après un décès, pour procéder à une reconnaissance, il suffisait de regarder la personne, de comparer avec les quelques estampes photographiques que l'on avait d'elle de son vivant, pouvoir comparer avec une robe qu'elle avait portée, un vêtement, un bijou. Mais où sont-ils là, les vêtements ? Où est-il le visage ? Où est-il le sourire ? Où sont-ils les cheveux et chapeaux si distinctifs ? Les femmes et les hommes, et les quelques hommes, puisqu'il y aura au final 6 hommes qui seront retrouvés morts, les femmes sont méconnaissables. Si bien qu'une autre méthode de reconnaissance va devoir être inventée et va accoucher de cet événement. Parce que les expertises médico-légales, telles qu'on les connaît notamment de nos jours, doivent beaucoup à l'incendie du bazar de la Charité, qui va permettre ses tout débuts, qui va même la créer. On va donc faire en sorte de chercher d'autres éléments permettant de reconnaître les cadavres, puisque nous n'avons plus les moyens de reconnaître un visage en le regardant simplement. Peut-être pouvons-nous chercher un moyen comme un bridge ou une dent en or ou une hanche qui aurait été changée ou autre suite à une opération chirurgicale pour permettre une identification identification différente. Et c'est ce qui permettra du reste l'identification de la duchesse d'Alençon, qui sera reconnue par son dentiste parce que celui-ci lui avait posé des bridges bien particuliers. Le palais de l'industrie sert donc de morgue et les reconnaissances s'enchaînent. Elles s'enchaînent, mais elles ne vont pas être les seules. Les vols s'enchaînent aussi. Parce que si les vêtements ont disparu, les bijoux ont résisté, du moins certains, aux flammes. Et très vite, on va voir au palais de l'industrie une foule peu recommandable voler les bijoux et profiter de l'incendie pour en faire un recel de très mauvais goût. Et très vite, du reste, on va voir un pèlerinage se rendre sur les lieux du bazar de la charité dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et la presse, qui est partie prenante de ce fait divers, qui le relate presque heure par heure après la fin de l'incendie et qui se fait jour d'un décompte macabre où la publicité n'existe plus. Où la publicité, qui jusque-là était en vigueur pour le corps des femmes, eh bien ne se fait de cesse de raconter avec des détails dont se passerait une population de qualité tout ce qui a pu être trouvé de morts comme de vivants, de blessés ou pas, dans le bazar et dans ses environs. Et ce recel fera la fortune plus que contestable de certains malandrins. Le baron de Mako et Henry Blunt sont sortis vivants du bazar de la charité après avoir sauvé du reste le plus de personnes qu'ils aient plu. Monsieur Henry Blunt est rentré chez lui. Son hôtel particulier se trouve non loin de la rue Jean Goujon. Et lorsqu'il fait part à ses parents du désastre qui vient d'avoir lieu, la réplique de son père est acerbe. Il lui aurait dit « Je préfère te savoir mort là-bas que vivant ici ». C'est dire le déshonneur face à ces hommes qui sont toujours debout. Parce que la presse s'est faite forte de faire un décompte. Le décompte fait état de 120 victimes. 120 victimes sur les plus de 1200 personnes au plus fort de l'affluence qu'ait pu connaître le bazar. Vous allez me dire, c'est peu de choses. Oui. Mais croyez-moi, quand vous allez savoir la répartition de ces victimes, vous allez comprendre pourquoi le bât blesse et pourquoi tout cela va faire exploser la société française et même traumatiser plus largement tout le pays. Sur les 120 victimes, 116 sont des femmes. 116 femmes, imaginez-vous, et où sont les hommes? Il n'y aura que 6 hommes, parmi lesquels un médecin notamment, qui mourront dans le bazar. Et ces hommes n'étaient pas là pour profiter du bazar de la charité, non, ce sont les sauveteurs, ce sont ceux qui sont venus aider, qui étaient des ouvriers, qui n'étaient pas du même milieu, qui ne faisaient pas partie de cette haute aristocratie, parce que ce deuil, au final, qui va arriver ensuite, il est loin de faire l'unanimité. Et très vite, sur les journaux, on se fait écho d'un deuil de riches, d'un deuil que la population de Paris et du reste que le reste du pays a bien du mal à faire. Et ce n'est pas le prêche du père Olivier qui va faire basculer les consciences. Au contraire, il va rajouter de l'huile sur le feu, le père Olivier, en disant tout simplement que ce châtiment-là est un châtiment divin pour punir en gros cette haute aristocratie de son oisiveté, à contrario de ces petites gens, de ces plombiers, de ces cochers, de ces médecins, qui en plus de leur travail, eux, sont allés à l'opposé de cette oisiveté pour aller risquer leur vie. Parce que c'est cela le problème, c'est cette oisiveté qui est décriée, c'est ce mode de vie qui certes fait le côté très flamboyant de ce Paris de cette fin du 19e siècle, mais qui au final ne convainc plus, et on sent déjà un basculement, et on sent cette bascule. Et on sent surtout cette critique de cette société, de cette très haute aristocratie qui déjà n'était plus bien vue en France depuis la Révolution du reste, mais qui avait su se faire oublier et proposer à cette bourgeoisie de participer à ces festivités par les opéras, par les réceptions et par les tickets qu'elle pouvait lui donner. Seulement voilà, l'attitude lâche, contestable des hommes ne fait que conforter le pays. Ces luttes des classes sont nécessaires. Il faut rétablir un équilibre. Vous allez me dire, nous n'en sommes pas encore aux révolutions prolétariennes, non, loin de là. Et croyez-moi, elles couvaient déjà dans l'œuf, parce que ces édiles sont déjà largement contestés à cette époque-là. Il n'y a pas qu'en France, en Russie également. Il y a d'ores et déjà, à cette époque-là, de premières révoltes qui font craindre un basculement du régime. On a tort de croire que ces événements peuvent être oubliés au bout de quelques jours, quelques semaines, loin de là. Il faudra des mois pour oublier, pour arriver à panser les plaies. Et d'ailleurs, les victimes de l'incendie du bazar de la Charité ne seront plus admises dans les salons. Elles vivront pour la plupart recluses parce que marquées dans leur chair. Et les hommes qui se sont si mal conduits à l'époque se verront fermer la porte de tous les salons de qualité. C'est pourquoi depuis, on n'emploie plus le mot « gentilhomme » ou « gentleman » pour la haute aristocratie française. Nous allons donc voir maintenant quel héritage on a pu tirer de cet événement tragique et combien, justement, la mémoire de cet événement a marqué pas seulement Paris, mais tout le pays. La presse de qualité, autant que la presse de faits divers, s'est vue être aux premières loges de l'incendie, ou plutôt aux premières loges du moment où celui-ci était en train de terminer de se consumer. Elle a pu voir les victimes de celui-ci encore transies de douleur, et elle a voulu tout faire pour les interviewer. Et les récits qu'elle reçoit lui font se hérisser les cheveux sur la tête. Ce sont des récits d'horreur que la presse retranscrit mot pour mot. Il n'est plus question de pudeur, il n'est plus question de protéger une certaine classe sociale, il n'est plus question d'épargner qui que ce soit. Il faut dire, il faut raconter, il faut faire un décompte. Les corps que l'on a pu extraire tant bien que mal du brasier sont conduits au palais de l'industrie. Et les journalistes suivent ces macabres cortèges et vont donc pouvoir faire par eux-mêmes un décompte morbide des victimes et retranscrire presque jour par jour le nombre de victimes qui ne fait que grossir pour atteindre le chiffre définitif de 120 victimes. 120 victimes, et parmi ces 120 cadavres, 116 sont des femmes. La foule qui découvre ce fait divers est transie d'horreur. Mais où sont les hommes ? Et lorsque, dans les divers entrefilets, elle découvre les témoignages qui racontent combien un homme a pu fracasser presque le crâne d'une femme pour la forcer à lui laisser la place, lui donner des coups de femme, de canne, l'écraser, lui donner des coups de pied pour se frayer en chemin et enfin sortir. Et que l'on se rend compte que ces hommes fréquentaient il y a encore quelques semaines tous ces clubs, participaient aux saisons, participaient aux réceptions, vont à l'opéra, sont donc des gens plus que convenables. On ne comprend pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui a pu les faire basculer. Mais certes, si cette question se pose, c'est surtout une colère à peine dissimulée qui se fait jour envers cette haute aristocratie que la France et surtout les Français supportent de moins en moins. On lui préfère la classe bourgeoise ou du moins cette classe ouvrière qui est en train de naître portée par les élans de la révolution industrielle et portée par ces innovations techniques qui requièrent chaque jour de plus en plus de main-d'œuvre et qui requièrent aussi une réorganisation des usines avec les premiers syndicats et donc de meilleures conditions de travail, des payes qui permettent aux ouvriers d'améliorer l'ordinaire et à certains de s'embourgeoiser, de vivre un peu mieux. La France est lasse de cette classe très haut perchée qui ne vit que dans l'oisiveté, et après tout, ne serait-ce pas bien fait pour eux ? C'est bien ce que l'on peut trouver dans les journaux. Ce deuil de riches, très peu veulent le faire. Et les prêches du père Olivier, auxquels du reste assiste Félix Faure, qui pense plus au désastre de l'affaire Dreyfus dans lequel son gouvernement est empêtré depuis plusieurs années qu'aux victimes directes de l'incendie du bazar de la Charité, il n'écoute que d'une oreille. Parce que ce n'est pas uniquement la population parisienne qui est traumatisée par l'incendie en lui-même. C'est tout le pays qui se réveille groggy par un incendie dont la France fait presque un cas à part. De mémoire d'homme, on n'avait pas connu telle catastrophe depuis plusieurs années, voire même plusieurs siècles. Et lorsqu'on apprend en plus que ce sont des femmes les victimes, la révolte est encore plus forte. Et de tout le pays, le mot de lutte de classe se répand presque comme une traînée de poudre. Les débats sont enflammés dans les deux assemblées. Clémenceau y apporte sa part. Et d'ailleurs, parmi les victimes de l'incendie du bazar de la Charité, va se trouver la propre secrétaire de Clémenceau, qui se verra anoblie, puisque sur le registre que l'on peut trouver en fait des victimes, Clémenceau demandera à ce qu'elle puisse porter une particule. Le choc est rendu et propagé par la presse qui n'utilise plus la pudicité, plus la retenue pour parler des femmes. On détaille chaque corps, on détaille les odeurs, on détaille tout. On ne cache rien, on parle des vols, on parle des recels, on parle de tout. Et c'est une horreur qui va durer plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui va faire refuser aux maires de province l'arrivée du cinématographe dans leur ville. Parce que bien évidemment, le cinématographe, après un tel événement, vous vous en doutez, est banni de la capitale. Il est banni des salons de qualité. On ne veut plus en entendre parler. Qu'il reste en province à amuser la galerie lors des foires, il est tout juste bon à cela. Mais il ne reparaîtra pas à Paris. Eh bien, croyez-moi, même les maires de province n'en veulent pas. et il faudra plusieurs années, et notamment l'attachement du cinématographe et le fait qu'on puisse le voir à l'œuvre lors des foires, lors des fêtes, pour que petit à petit, il finisse par revenir dans les grandes villes. Mais là, on va apprendre de l'incendie du bazar de la Charité. Il n'est plus question de prendre la sécurité par-dessus la jambe, comme l'avait fait le comité d'organisation du bazar. Il n'est plus question de se contenter d'un simple rideau, comme séparation faite à peu de frais. On sépare la cabine du projectionniste, on l'éloigne de la salle de projection, on fait attention, on surveille l'étanchéité des bonbonnes. Bref, on prépare ce qui va devenir nos salles de cinéma. Parce que oui, nos salles de cinéma actuelles doivent beaucoup au bazar de la Charité. Je ne dis pas qu'elles doivent le remercier, mais elles doivent beaucoup dans la conception aux leçons qu'on a pu tirer du bazar de la Charité. Et lors des justement exercices que font les pompiers de Paris, eh bien, il y a une part qui est consacrée toujours aujourd'hui à l'enseignement que l'on peut tirer du bazar de la Charité, qui est en gros tout ce qu'il ne faut surtout pas faire. Si aujourd'hui vous vous rendez sur place à la rue Jean Goujon, vous trouverez à la place du terrain vague une chapelle. Une chapelle qui a été construite en mémoire des victimes de l'incendie du bazar de la Charité. Il y a même une association qui continue de faire vivre leur mémoire. Vous trouverez le nom de toutes les victimes. Au départ, écrites en fonction de leur qualité. C'est pour cela que le nom de la duchesse d'Alençon apparaît en premier. Ces noms rappellent combien cet événement fut dévastateur. Combien une catastrophe se fiche du rang social, se fiche quand qu'elle est face à elle une duchesse, une marquise ou autre. Tout le monde est mis sur un pied d'égalité. Mais l'on a surtout vu jusqu'où pouvait aller la raison, et on a surtout vu combien l'homme peut facilement perdre pied, combien l'instinct de survie qui saisit les hommes, parce que c'est bien cela dont il est question, l'instinct de survie peut faire tout oublier. Oh, il n'est pas question aujourd'hui d'excuser les hommes, d'excuser leur comportement. Mais il convient de modérer notre ardeur et de nous demander comment nous aurions réagi à leur place. N'aurions-nous pas cherché, nous aussi, à nous sauver face à un châtiment, face à une mort que l'on pense presque inévitable, prise tous dans la panique? Comment aurions-nous pu réagir? Serions-nous, nous aussi, comme les hommes? Aurions-nous été jusqu'à penser à notre propre vie plutôt qu'à celle des autres? C'est fort probable. En cela, cela met en avant la nature humaine, le chacun pour soi, lors de grands événements, lors de catastrophes. Et pourtant, ce chacun pour soi a été transcendé par des actes de générosité, par ces actes de sauvetage qu'on a vu de la part de cochers, de médecins, de petits personnels qui, au mépris de leur propre sécurité, sont venus contredire cet adage qui fait que chacun pour soi et Dieu pour tous. Pour certains, l'instinct de survie ne peut être dépassé. Pour d'autres, leur nature fait qu'ils vont se jeter au milieu du danger. Ne les jugeons ni les uns ni les autres. Mais n'oublions pas la mémoire de cet événement. N'oublions pas leurs victimes. N'oublions pas non plus ce qu'était cet événement au départ. Y aura-t-il d'autres bazars de la Charité? Non. Ce sera la dernière édition du bazar de la Charité. La Charité continuera à s'exercer, mais d'autres façons, par d'autres rassemblements. Je vous remercie pour votre fidélité et pour vos écoutes toujours plus nombreuses, et je vous retrouve pour un prochain épisode éphéméride qui verra cette fois-ci nous intéresser à l'assassinat d'Henri IV par Ravaillac. Était-ce uniquement l'acte d'un fou ? Je vous donne rendez-vous le 14 mai. Profitez bien, restez prudents. À très bientôt !